Hop là, alors attends, on va faire un petit coup de clic quelque part. Voilà, bonjour. Donc voilà, ça fait un moment que vous la voyez celle-là, mais c'est vrai que j'aime bien ce personnage du Joker. Je sais pas vous, dans The Dark Knight, hein, celui de Christopher Nolan, pourquoi tant de sérieux? Donc moi, il y avait vraiment cet aspect, j'avais envie de vous parler de Framasoft, ne soyons pas sérieux. Et je me suis vraiment rendu compte, j'espère que ça se retranscrira au fur et à mesure de la conf, que c'était une proposition politique que de ne pas être sérieux. Et en même temps, ça va bien avec le Joker. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin, la symbolique de ce film où Batman et le Joker se battent l'un contre l'autre, c'est que Batman représente la loi et l'ordre, et le Joker représente le chaos et le non-sens. En fait, donc il y a vraiment tout cet aspect et ces deux propositions politiques, deux propositions d'organisation, deux propositions de monde. Alors hyper extrême et voilà, et caricatural, c'est normal, on est dans un film de comics, mais voilà, c'était assez intéressant au final que cette petite image reste bien longtemps. Donc moi c'est Pouillou, bonjour. Voilà, je fais partie du monde du logiciel libre et de la culture libre. Et je ne suis pas développeur. Si quelqu'un me demande de coder quelque chose, si quelqu'un me dit, mais c'est simple, tu sudo apt-get install, machin, j'ai juste envie de me mettre dans un tout petit trou et de mourir très vite, très fort. Non, vous me filez des trucs à cliquer, s'il vous plaît. Donc voilà, je suis pas dev, mais par contre, je parle leur langage. Je les comprends, je les ai étudiés, hein, j'ai vu beaucoup de documentaires sur eux. Bon bref, voilà, je suis un peu geek friendly là-dessus, et du coup, bah, ça me permet, comme ça, du coup, à un moment donné, de parfois pouvoir faire le lien entre mes amis qui sont hyper à fond sur le code, sur l'administration système, sur ces choses-là. Je veux dire, si y en a que ça dégoûte, bah, ça veut dire qu'il y en a que ça excite, hein, c'est normal. Voilà, faire le lien entre ces personnes-là et, par exemple, je sais pas, moi, mon frère, ma maman et tout ça, qui en ont juste rien à foutre. Tout comme d'autres personnes sont capables de faire le lien entre les fondus de mécanique et moi, qui n'en ai rien à branler, je veux que ma voiture, elle marche. Voilà. Donc à la base, moi, je suis auteur. Auteur d'Urban Fantasy, je suis aussi guide touristique, hein, si ça vous intéresse au niveau des études, parce qu'il n'y a pas de diplôme d'auteur d'Urban Fantasy, j'aurais aimé. Et du coup, ben ma place dans le milieu du logiciel libre, elle est à Framasoft. Alors Framasoft, pour les personnes qui ne connaissent pas, je présente, voilà Framasoft. Une bande de potes. Oui, voilà, coucou. C'était lors de l'AG, j'y étais pas, ils ont bu des coups à ma santé. Bon, il n'y a pas tout le monde là, hein, voilà. Mais ouais, Framasoft, avant tout, c'est une bande de potes. Et c'est une bande de potes qui, justement, sont plutôt dans le délire de ne pas être uniquement que des technologiques spécialisées à fond. Attention, on est tous à fond, on a tous un grain, il n'y a pas de problème là-dessus, et toutes d'ailleurs, on l'assume. Mais l'idée étant plus que justement, la plupart de ces personnes viennent aussi de la société civile, je sais pas comment dire, de la société non développeuse. Frama, à l'origine, c'était en 2000, 2002 que ça s'est monté tout ça, c'est français mathématiques, prof de français, prof de maths, qui se rencontrent, qui trouvent des logiciels gratuits pour mettre dans la salle informatique parce qu'ils n'ont pas de budget, qui voient que derrière certains de ces logiciels, il y en a des libres et qu'il y a une proposition éthique, humaniste, intéressante, et donc bah, qui vont commencer à essayer d'en parler autour d'eux, et c'est comme ça que c'est né. Donc voilà, Framasoft, l'association a 15 ans d'existence aujourd'hui. Comme je le dis, on est des moldus du code. Alors c'est facile de faire une référence anti-geek avec une référence geek. Voilà, mais moldus, pour les personnes qui connaissent Harry Potter, ce sont les non-sorciers. Voilà, on est principalement des moldus du code. Évidemment, on a des personnes spécialistes, développeurs, admin 6 et tout ça aussi. C'est une association qui vit par le don. Donc grâce à 2000 personnes à peu près aujourd'hui par an qui nous donnent de l'argent, c'est 95% de notre budget. Hein, autant vous dire que le reste, c'est des aides à l'emploi et de la vente de t-shirts et de bouquins, grosso merdo. Mais on est une association qui vit principalement par le don, ce qui fait que nous ne sommes pas dépendants de bénéfices commerciaux et nous ne sommes pas dépendants non plus d'un bon vouloir politicien et administratif au niveau de subventions. Et l'idée de Framasoft, pour promouvoir un peu le logiciel libre et sa culture, c'est de proposer des projets concrets, des clés USB remplies de logiciels libres, un annuaire pour dire, bah tiens, je veux me passer de Photoshop, quelles sont les alternatives, ou je veux me passer de, je sais pas moi, n'importe quoi d'autre. Ça peut être aussi au niveau de la culture libre un blog pour notamment avec un groupe de traduction qui va traduire des nouvelles du monde plutôt anglo-saxon et puis les amener vers les francophones parce que ouais, les francophones ça compte aussi. Pardon, excusez-moi. Je sais pas. Ouais, c'est bon. Il bouge plus, on est bon. Donc voilà, on a aussi une maison d'édition. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Framasoft. J'ai mis mon premier roman dans le domaine public. Et puis ils m'ont dit, tiens, écoute, ça nous tenterait bien d'éditer un roman. Jusqu'à présent, on faisait du manuel, on faisait de la BD. Donc voilà, et pour soutenir la culture libre, nous, on a des envies d'éditer des choses. Donc du coup, et c'est comme ça que je suis rentré dans l'association il y a quelques années maintenant. Et puis, on propose aussi des services web. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la plupart des logiciels aujourd'hui, on ne les installe pas sur son ordinateur. On les utilise depuis son navigateur. Ça veut dire qu'ils sont installés sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, Google, Facebook, Microsoft, au hasard. Et ça s'appelle des services web. Le but de Framasoft, c'est justement d'être un peu ce chaînon manquant, comme je vous l'ai dit, entre les moldus du code comme vous et moi et les barbus UES spécialisés dans le code. Hop là. Du coup, est-ce que tu acceptes quand je te clique, ma grosse ? Non ? Hop là, mon gros. Viens là, mon amour. Voilà, c'était trop chou. Donc voilà, notre gros projet au niveau des services libres, c'est Dégooglisons Internet. On a commencé en octobre 2014 et on a dit sur 3 ans, donc jusqu'à octobre 2017, autant vous dire qu'on va pas tarder à tourner la page, en 3 ans, on va prendre 30 services privateurs, hein, je sais pas, vous voyez, Trello, GitHub, Pocket, Google Doc, Doodle, Google Group, Evernote, YouTube. Voilà, 30 services et sur 3 ans, on va se lancer le défi de proposer des services alternatifs, des alternatives qui respectent les vies numériques de chacun et chacune, les informations numériques, les données, comme on dit, des alternatives éthiques, solidaires. Voilà, et on va se donner ce défi-là, ce pari un peu fou. Eh bien, finalement, ça a pas trop mal marché. Rappel, l'association, il y a 30 membres. Nous sommes une micro-association. Nous avons 7 salariés. Eh bien, sur 3 ans, nous avons proposé plus de 30 services web. Pas forcément tous, hein, Gmail et YouTube, ça y est pas encore, par exemple. On a plus de 2 millions de visites par mois, ce qui veut dire que Dégooglisons Internet, aujourd'hui, change les vies numériques de... approximativement, hein, on ne peut que faire au doigt mouillé, 200 000 à 400 000 personnes chaque mois. C'est 200, enfin, je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte que 30 pécheurs et 7 salariés, dont je fais partie, les 7 salariés, influencent les vies numériques, aident à changer les vies numériques de centaines de milliers de personnes. Ou alors que 2000 donateurs et donatrices aident à changer les vies numériques de centaines de milliers de personnes chaque mois. C'est hyper intéressant comme délire. Par exemple aussi le budget, hein, 500 000 euros de dons sur 3 ans. Alors je vous l'ai fait à la louche. 500 000 euros de dons sur 3 ans, c'est 6 mois de coût d'un ou d'une députée. Et encore, j'ai arrondi supérieur, c'est un petit peu... voilà. C'est 81 mètres d'autoroute, je suis désolé, j'ai trouvé que des chiffres de 2009. Et le truc qui me fait kiffer, parce que l'Assassin, ce sont mes chéris d'amour que j'adore, c'est que c'est 22h23 de fonctionnement annuel de l'Assassin. Attention, j'ai pris en compte tous les salaires de la SACEM et toutes les charges. Je n'ai pas pris en compte tout l'argent qu'ils reversent aux artistes. Je parle simplement des charges de fonctionnement de la SACEM. La SACEM, alors on est sur les chiffres 2014, c'est un rapport de la Cour des comptes de 2015. À l'époque, en 2014, la SACEM servait 48 000 adhérents et adhérentes. Pour info, il y avait à peu près 1900 personnes qui touchaient des sous. Voilà. Donc, pour 48 000 adhérents adhérentes et environ 2 000 personnes qui touchent bien de la thune, on a, nous, notre coût de 3 ans de trucs, c'est 22h23 de fonctionnement SACEM. J'ai refait les calculs 50 fois ce matin. Je vous assure, je n'y croyais pas. Voilà. Mais ils ont un budget de fonctionnement annuel qui avoisine les 200 millions d'euros par an. Voilà. Donc ça marche. C'est un peu une victoire pour nous. Donc j'ai pris ce haïku que j'aime beaucoup d'un grand haïkaïste du début de notre siècle. Voilà. Il y a une véritable victoire de petits groupes qui bidouillent dans son coin et qui arrivent à faire un truc assez aux conséquences assez énormes et répandues. Voilà. Donc ça nous intéresse parce que du coup, je vais pas vous raconter. Comment est-ce qu'on a eu ce succès? Clairement, si quelqu'un essaie de vous vendre une méthode, faut pas le croire. Voilà, ça c'est la méthode pour le succès. Moi, je l'ai pas, hein, la méthode pour le succès. D'ailleurs, je crois que ça se voit, c'est la seule, la plus réussie de la conférence. Voilà, je vais pas vous parler d'une méthode. Franchement, il y a aussi tout un tas de choses dans des googlisons internet où on a eu du bol, on a eu de l'intuition, on a peut-être été en accord avec ce que nous vivions et qu'au final, on n'était pas les seuls à vivre. Typiquement, des googlisons internet, on l'a commencé un an après les révélations Snowden. Donc pendant tout un an, les gens ont commencé, ça a commencé à rentrer bien dans le crâne. Les problèmes de données personnelles, on n'en parlait pas trop avant 2013, hein, avant l'été 2013. Donc voilà, et du coup, on a eu pas mal de chance et tout ça. Donc je peux pas vous donner une méthode claire. Par contre, on peut tenter de voir comment ça s'est passé. Alors au début, très clairement, enfin voilà, ça c'est une des slides de la conférence des Rencontres mondiales du logiciel libre de juillet 2014, où on a dit tiens, et si on dégooglisait Internet? C'est comme ça qu'on a lancé le projet auprès du milieu libriste. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Bah, tenter de conquérir le monde, non, tenter de libérer le monde. Autant vous dire que déjà, on avait énormément d'humour sur nous-mêmes. Quand on a essayé d'imaginer des googlisons Internet, on appelait ça le plan de libération du monde. C'est, enfin, voilà, c'est vous dire si on se foutait de notre propre gueule. Et puis très clairement, on avait une idée, est-ce qu'on va y arriver? Non. On était persuadé qu'on n'y arriverait pas. Juste, on a dit, on va faire une proposition, on va faire du mieux qu'on peut. C'est pas grave d'y arriver. Le but, c'est juste d'essayer, peut-être de viser la Lune et d'arriver à l'île de Ré. Pourquoi pas, hein, ça, c'est déjà ça. Mais en tout cas, de tenter quelque chose et de faire parler de ces enjeux et de faire de notre mieux. Et puis merde, on verra bien. De toute façon, on n'est pas plus con qu'un autre, on peut tenter des choses. Donc voilà, ce que je vous propose lors de cette conf, c'est de faire un petit tour dans les coulisses. Alors pour ça, lors de dégooglisons Internet, on parle souvent de GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et donc, je me suis dit que le meilleur angle pour le tour de ces coulisses, c'était de faire un petit comparatif entre l'image que projettent les GAFAM, qui sont en fait l'autre côté, l'autre proposition. Ils ont une proposition de monde, hein, GAFAM, faut pas déconner, le monde un peu de l'ubérisation, le monde du transhumanisme, enfin voilà, il y a des réflexions hyper intéressantes. Il y a tout ce qui est le capitalisme de la surveillance qui commence à être très très bien étudié, hein, d'ailleurs. Voilà, il y a une proposition politique, une proposition de monde concrète. Voir quelle est leur position. Qu'est-ce que ça veut dire sur leur proposition et peut-être nous en face, du coup, comment est-ce qu'on s'est positionné et comment est-ce que ça a marché? Donc voilà, donc on va commencer par Google. On a des super stickers qui existent comme ça et donc je me suis dit que c'était bien pour introduire chacun des GAFAM. Voilà, donc on va commencer par Google. Google, si on regarde bien Google, le principe, c'est quand même que... c'est une espèce d'énorme araignée. Alors vous savez que Google ne s'appelle plus Google, il s'appelle Alphabet. Hein, c'est très très régulier. Les partis politiques le font depuis très longtemps, mais Areva aussi l'a fait, ou tout un tas de choses comme ça. C'est dès que ça pue un peu trop, on change le nom. On garde les mêmes, on garde les méthodes, mais on change le nom. Donc voilà, ça marche bien. Bon, là, ils ont fait ça pour tout un tas de choses, hein, des lois antitrust, et puis surtout pour gagner encore plus d'argent en bourse. Ça a très très bien marché pour eux, ils vous remercient. Voilà. Donc Google, c'est une énorme toile, une énorme. Enfin, c'est pas juste un moteur de recherche. Si vous regardez tous les services web, évidemment, YouTube, Gmail, Google Docs, je vais pas vous tous vous les faire, mais vous savez aussi qu'ils font des Google Cars, qu'ils font des Google Glass. Est-ce que vous savez aussi qu'ils font de la santé avec Calico, qui travaille sur des lentilles pour les diabétiques? Et évidemment, sur aussi des systèmes afin que les gens puissent avoir des consultations médicales depuis Internet et depuis leur moteur de recherche. Hyper intéressant là aussi, pardon. Ah bah tiens, voilà, allez hop, je refais de la connerie. Donc voilà, donc Google, c'est un énorme truc. Google, est-ce que vous savez aussi que Google Capital, Google Ventures, ils ont de la finance. Ils font de la fibre optique, pas mal aux États-Unis notamment, hein, Google Fiber. Ils font des objets connectés, Nest, des thermostats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Google, c'est... Quelle chaleur il fait chez vous? Déjà qu'ils ont mis un micro, hein, dès que vous faites « Ok Google », machin chose. Tiens, là, je pourrais essayer de voir si je déclenche le téléphone. Hein. Ok Google, dis-moi quelle heure il est. Siri, dis-moi quelle heure il est. Et Alexa, voilà. Mais donc voilà, ils mettent des micros chez les gens, ils mettent aussi des thermostats chez les gens. Voilà, c'est hyper intéressant, ils ont de plus en plus d'informations. Donc voilà, et ça, c'est en plus de ce qu'il y a dans Android, Google Search, YouTube, les apps, les maps et les compagnies. Donc, c'est un énorme truc tentaculaire. Nous, en face, on est tout petit. Allez, je vais vous montrer la diapositive où on est tout petit, elle est mignonne. S'il te plaît, tu m'aides à la montrer ? C'est ça. Donc voilà, nous en face, on est vraiment tout petit. On est tout petit, on n'a pas les mêmes moyens. On est des libristes, c'est-à-dire qu'on utilise donc du logiciel libre. C'est un peu la seule manière qu'on ait trouvé, vu que le logiciel libre, il y a un contrat juridique derrière. Il y a quelque chose d'hyper important. C'est ce qu'on appelle la licence libre. C'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour assurer légalement les libertés individuelles des uns et des autres. Donc, en gros, que la machine soit au service de l'humain et non pas l'inverse. Voilà. Donc, assumons. Assumons, ce qui veut dire... Putain, mais... Pardon, je suis désolé pour le putain, c'est plutôt phobe. Hop là, ça arrive. Assumons. Assumons de deux manières. De deux manières, nous sommes tout petits, donc nous devons nous allier. Je ne sais pas si vous connaissez Alternatiba, les alternatives et tout ça. Il va falloir à un moment donné sortir de son entre-soi qu'on peut avoir dans le logiciel libre, mais qui existe dans toute sphère militante. Hein. Très souvent, on va se retrouver dans un espèce d'entre-soi, les personnes anticapitalistes, les personnes féministes, les personnes des luttes LGBT+, ou Mogai, etc., etc. On va très vite se retrouver dans un entre-soi. Ben là, essayer de tresser des ponts. Et c'est marrant parce que c'est dans l'air du temps de toutes les militances que je perçois, hein, l'écologie aussi, tout ça, la convergence des luttes, ça peut s'appeler l'économie sociale et solidaire, ça peut s'appeler l'intersectionnalité, ça peut s'appeler tout un tas de choses, mais arrêtez de dire que juste mon domaine de spécialité est la chose importante. Donc ça veut dire aussi à un moment donné ne pas être, se prendre trop au sérieux, ne pas dire c'est juste le logiciel libre qui est important, et puis bon, bah, le féminisme, on verra demain. Ça peut peut-être être aussi, attends, du coup, moi, le féminisme, le logiciel libre, je connais, mais bon, le féminisme, je connais pas, vas-y, apporte-moi. Et puis bah, peut-être que en apprenant, du coup, je pourrais aussi, moi, t'apprendre bah, des choses qui peuvent t'aider dans tes démarches, et puis toi, tu vas m'apprendre des choses qui peuvent m'aider dans les miennes. Voilà. Et puis, j'aime bien cette image parce qu'on dit souvent pour les services des googlisons Internet, ce sont des alternatives. Le vélo est une alternative à la voiture. C'est pas pareil. Ça va pas vous servir dans les mêmes situations. Et si vous vous attendez à ce que Framapad soit exactement la même chose que Google Doc, que Framatalk, qui vous permet de faire des visioconférences, soit la même chose que Skype, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Ça ne marchera pas et c'est à assumer totalement. Il n'y a pas de problème. Et vous pouvez prendre le temps de passer, de vous asseoir si vous en avez envie, hein. Ne vous emmerdez pas, on est entre nous, c'est le THSF, hein, tout va bien, mais je vous en prie. Donc voilà, typiquement pour Framatalk, ce qui m'intéresse, c'est que c'est Skype, c'est hyper relou. Hein, faut installer un logiciel, s'inscrire, du coup s'échanger les pseudos pour être dans le carnet d'adresses des uns des autres et tout ça. Moi, si je veux faire une visioconférence avec tous les membres de ma famille, eh ben, j'ai juste à créer un salon sur Framatalk, je leur file l'adresse web par email, par ce que je veux, voilà, pigeon voyageur, ou par Facebook, pourquoi pas. Et du coup, eh ben, on a une visioconférence en 2 secondes. Alors, ça n'est pas aussi pratique parce que je n'ai pas mes contacts tout le temps sur moi comme dans un réseau social, mais c'est peut-être plus pratique parce que justement, j'ai pas à me faire chier avec ces histoires d'inscription. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'aspect alternative. Du coup, on assume. Passons donc à la fameuse drogue que nous aimons tant, Apple. Est-ce que vous savez comment nous appelons ces personnes ? Les vendeurs et vendeuses de chez Apple, ce sont des... Mignons, non ? Vous savez pas le nom officiel ? Des génies, merci. Des génies d'Apple. Est-ce que vous vous rendez compte que, voilà, quand t'as ton BTS force de vente et que on t'enferme dans une espèce de cage en verre, ou enfin en tout cas dans un endroit hyper aseptisé, où les écrans sont posés à 45 degrés. C'est ton boulot toute la journée, il faut que les écrans soient à 45 degrés. Parce que si l'écran est comme ça, en fait, bah, le consommateur, le premier réflexe, c'est qu'il va faire ça et l'amener vers lui pour y voir. Et s'il fait ça, il a touché le produit, il est rentré en contact avec le produit, il va acheter le produit. Donc ton boulot de vendeur, c'est de vérifier que les écrans soient légèrement décalés. Super, hein? Et en plus, on te dit tu es un génie. On te condamne à être un fucking genius. Est-ce que tu te rends compte l'enfer? Tu sens bien qu'on se fout de ta gueule à un moment donné, quoi. Faut pas déconner. Non seulement on se fout de ta gueule, mais en plus on te fout cette responsabilité-là sur les épaules. Voilà comment on traite les employés chez Apple. Enfin, moi je trouve que c'est, enfin, au niveau psychologique et au niveau machin, Ah, il y a un serre-tête qui vole. On se pose des questions, hein. Voilà. Alors ça, c'est comment on traite le côté humain chez Apple. Chez Framasoft, ça donne plutôt ça. En général, pour trouver le nom d'un nouveau Framaservice, je vous préviens, on en a ras le cul, nous aussi, des Framatrucs et Framabidules, mais bon, c'est ce qui a marché, donc voilà. Là, c'était pour le moteur de recherche. Il y a notre BDiste illustrateur G qui a fait. C'était la véritable discussion, hein, c'est la soirée. Alors, ça ne montre pas le taux d'ébriété dans lequel nous étions. Voilà. Mais on était complètement bourrés, on savait pas trouver le nom d'un moteur de recherche. Ce qui fait que notre admin 6 à la fin a fait « Vous me faites chier ! De toute façon, je peux faire 3 noms qui iront sur le même site, donc on va faire plusieurs noms. » On a fini avec Framabi, l'abeille qui vous butine le web. Avec trouvons.org, hein, ça c'est genre, tu veux pas dire à ton patron qu'il y a un troisième nom, trompe.org. Et puis il y a le troisième nom. Je suis un peu responsable, aussi co-responsable du troisième nom. T'as une question, demande à tonton Roger. Vous imaginez donc Framasoft bourré à 2h du mat, en train de chercher sur Gandhi, est-ce que tontonroger.org est disponible? Il est, vite, prends-le! Voilà, ça s'est passé. Ça s'est passé. Et plus humainement aussi, comment est-ce qu'on se traite humainement? Enfin, on va en parler, hein, de tous les rapports. Mais il y a cette espèce d'immense respect. Quand je dis on a tous et toutes un grain, oui, et c'est parfaitement assumé. Enfin, je sais pas, regardez-moi, j'ai les cheveux verts, j'ai un serre-tête que j'ai fait moi-même, s'il vous plaît, c'est du DIY. Merci, attends. Regarde la douceur, quoi, tu vas voir, c'est un truc. C'est le plus doux du monde. Allez, faites-le tourner, allez-y, hein, si vous voulez, hein, je m'en fous. Donc voilà, mais ouais, c'est le serre-tête le plus doux du monde. Voilà. Je suis salarié de Framasoft. Je suis actuellement payé pour vous parler et je représente l'association pour laquelle je travaille, mon employeur. D'accord ? Il n'y a aucun souci. Je me souviens, on avait à Lyon une rencontre avec le réseau Canopé, qui est un réseau traitant de l'informatique. Enfin, là, c'était pour traiter avec de l'informatique dans les lycées. Et donc, bon, c'était quand même un truc sérieux, on devait tenir un stand. Et comme moi, j'allais sur Lyon à ce moment-là, je dis à mon collègue lyonnais, si tu veux, voilà, je reste un jour de plus, je prends un train un jour plus tard, je t'aide pour le stand, toi, tu vas faire ta conf et tout ça. Par contre, je te préviens, j'ai les cheveux, la barbe rouge. Et là, il me fait, mais on s'en branle. Je veux dire, ok, c'est des profs, peut-être qu'ils s'attendent à plus ou moins de sérieux, je n'en sais rien. Mais quand bien même, on s'en branle, on est comme on est, ils nous prennent ou ils nous prennent pas. Parlons maintenant un petit peu de Facebook. Facebook, c'est un peu la symbolique du capitalisme de surveillance. Hein. C'est-à-dire comment gagner des milliards et des milliards. C'est une des entreprises les plus riches du monde, on en reparlera. Comment gagner énormément d'argent en s'immisçant dans la vie personnelle des gens. Et en fait, si vous lisez vraiment les théoriciens et théoriciennes là-dessus, alors Shoshana Zuboff, qui est extraordinaire, c'est elle qui théorise. Elle est de Cambridge, c'est ça en Colombie, c'est Cambridge, je crois. Hein? Pardon? C'est Cambridge, c'est en Angleterre? Ok, bon, bref. Vous verrez, Shoshana Zuboff, vous cherchez, elle est extraordinaire. Elle théorise super bien le capitalisme de surveillance. Il y a souvent Harald Balkan. Qui derrière aussi reprend sa réflexion à partir notamment de ses travaux à elle et d'autres. Harald Balkan qui explique que nous sommes du bétail pour Facebook et Google et compagnie. C'est très intéressant, ce sont des fermes d'élevage d'humains, puisque en fait nos vies numériques, il faut pas déconner, aujourd'hui c'est une partie de nous-mêmes. Une partie qui peut-être est virtuelle, mais qui est notre vie concrète. Hein, quand on met des rendez-vous médicaux dans son agenda, ça a beau être du virtuel, hein, des données, c'est hyper concret si à un moment donné j'ai une opération hémorroïde, quoi. Donc voilà. Ce sont des fermes, des usines à viande, hein, un petit peu, mais sauf que là, ce sont des usines à humains. Voilà. Ça, c'est le capitalisme de surveillance. Quand on prend conscience de tout ça, en général, on hurle, on a peur et on a des réflexes de défense. Eh ben nous, face à ça, ça va être « don't panic ». Alors là, j'en profite, hein, si j'ai une serviette sur moi aujourd'hui, un, c'est parce qu'il fait chaud.
Deux, c'est parce que c'est le Towel Day aujourd'hui, donc qui est en hommage à, un jour en hommage à Douglas Adams, qui est l'auteur du Guide du routard intergalactique, que le Guide du routard français a obligé à être retraduit en le Guide du voyageur intergalactique. Douglas Adams, donc, qui donc dans son livre, il y a ce fameux Don't Panic, mais il y a surtout ne sortez jamais, jamais, jamais sans votre serviette. Donc voilà, le 25 mai, les fans. Ils ont une serviette, vous en verrez ici. Bref, donc ouais, clairement, don't panic, c'est affreux. Mais typiquement, si quelqu'un arrive et me dit « Ah ouais, je t'ai écrit pour faire ma sorte. » Bon, je suis désolé, hein, c'est sur Gmail. Ok, t'as une adresse Gmail, tu sais quoi, moi aussi ? J'en ai encore une. Tu sais quoi, pendant que j'ai commencé à Framasoft en 2014, en 2015, en plein projet des Google Internet, j'étais YouTuber. J'étais vidéaste sur YouTube. Évidemment, pas que parce que j'étais pas con, mais je diffusais des vidéos sur YouTube. Voilà. Donc, ok, on va pas moraliser. Oui, c'est grave. Oui, c'est important. On est conscient des enjeux, mais si en plus on perd du temps et de l'énergie à créer de la culpabilité, du bien, du mal, des fessées, des j'ai péché, j'expie, on va pas bosser. Donc ça ne sert à rien. Et en plus, si on regarde bien, il y a des arguments qu'il faut zapper. Typiquement, quand on commence à dire aux gens « Non mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a 5 grandes entreprises états-uniennes qui espionnent ta vie ?» numérique, donc ta vie. Le premier réflexe, ça va être « Non, mais de toute façon, moi, j'ai rien à cacher. Hein. » Je veux dire, toutes les personnes militantes l'ont entendu, celle-là. Hein. Et en fait, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Typiquement, quand tu vas aux chiottes, c'est pour ça qu'il y a cette magnifique emoji, quand tu vas aux chiottes, tu n'as rien à cacher. Typiquement, je suis déjà allé aux chiottes avant vous, vous êtes déjà allé aux chiottes aussi. Dans votre vie, vous savez à peu près ce que font les personnes dans les chiottes. Il y a des originaux, je ne dis pas, mais... Quand même, il y a en gros sommerdo, c'est pipi ou caca, hein, voilà, hein, et un petit curage de nez au passage, en loose dé. Donc voilà, mais vous avez rien à cacher, vous savez ce qu'on y fait. Pourtant, vous fermez le verrou. Moi aussi, je ferme le verrou. C'est pas pour cacher ce que j'y fais. En plus, parfois, ça s'entend, ça. C'est pas ça le truc. Voilà, et ça s'entend. J'entends des comme ça. Non. Ce qu'on veut protéger en fermant le verrou, c'est un sentiment d'intimité, un sentiment d'isolement. Un moment à soi, personnel, dans ce qu'on appelle l'intimité, parfois la pudeur, parfois des choses comme ça. Donc, c'est pas le fait de cacher quelque chose, ça n'a vraiment rien à voir. C'est juste que dans ces moments d'intimité, de pudeur, eh bien, parfois, un, on se sent plus à l'aise pour certaines activités, faire caca. Deux, parfois aussi, on est plus à l'aise pour certaines choses. Typiquement, il y a des choses que je pourrais parler avec plusieurs de mes amis, mais quand je vais en parler, je vais peut-être vouloir en parler d'abord qu'avec un ou une. Et pas que les autres arrivent avec leur bien en disant hey, « parlez de quoi ? Hémorroïdes ? Non ?» Tu vois ? Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre d'intimité. Et en fait, quand quelqu'un nous dit « je n'ai rien à cacher », ça n'est pas vraiment, comment dire, ça n'est pas vraiment la volonté de cette personne qui parle. C'est juste son cerveau qui se défend. Et c'est normal, c'est étudié par les neurosciences. Mais si on prend les choses trop au sérieux, on va être au premier degré, on va dire « Mais si, t'as pas... Enfin, non, tu n'as rien à cacher. Enfin, si, t'as quelque chose à cacher, parce que le cacher, ça... » Voilà. En fait, la personne se défend, son cerveau se défend. Si je vais t'apporter un paradoxe à ton cerveau va le prendre comme un prédateur. Or, on se pense tous et toutes en sécurité, on pense que nos pratiques communes sont plutôt safe et saines. Or, il s'avère que nos vies numériques, aujourd'hui, nous mettent en danger. Et quand on prend conscience de ça, ça crée un paradoxe. Le cerveau n'aime pas les paradoxes, il lève ses défenses contre le paradoxe. Et donc, il va nous faire dire tout n'importe quoi. Ça va de « je n'ai rien à cacher », mais si vous continuez ces discussions débiles, c'est juste que c'est notre cerveau qui parle à travers nous, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Ça peut aller ça, ouais, mais bon, foutu pour foutu, c'est bon, ma vie numérique, ils l'ont, quoi. Google, Facebook, voilà, c'est pas grave, tant pis, quoi. Et ça, c'est à peu près l'équivalent, si on le met au niveau écologie, de « écoute, foutu pour foutu, la planète, elle est pourrie, elle est déglinguée, donc mon huile de vidange, je peux la déverser dans le fossé. » C'est vraiment l'équivalent, en fait. Et on se rend bien compte que c'est un argument de merde et auquel on ne croit pas vraiment. Il y a très très peu de personnes qui y croient. Sauf que il faut prendre conscience que c'est juste l'esprit qui se défend. Et c'est normal, il fait son boulot de cerveau. Et ça, on peut en prendre conscience que si on est à l'écoute de la personne, et on ne peut être à l'écoute de la personne que si à un moment donné, on ne prend pas ces enjeux trop au sérieux et qu'on ne répond pas tout le temps au premier degré, qu'on va plutôt écouter la personne qu'écouter soi. Mon besoin à moi de si, utilise du logiciel libre. Stop ta gueule, c'est pas important. C'est l'autre qui est important. Voilà. Et ça, Facebook, c'est l'autre qui est important, ils l'ont pas. Alors ça marche pour d'autres militances, mais je suis pas spécialiste d'autres militances, mais je suis sûr que j'espère qu'on peut transposer. Oui, dis-moi.
Et juste pour rajouter un truc sur ce que tu disais sur les GAFA, c'est toutes ces données en fait qu'ils récoltent, c'est pas juste parce que c'est des vicieux et des pervers ou quoi, hein, non, c'est vraiment une machine qui récupère des données, qui les traite de manière scientifique et vraiment mathématique, et c'est ça qui permet après de faire vendre des choses aux gens alors qu'ils n'ont pas du tout prévu d'acheter. Comme par exemple le coût des 45 degrés pour l'écran, par exemple. Ça, c'est des études qui sont faites et chiffrées sur des probabilités de chiffres. Quoi. On sait que sur tant de personnes, il y a tant de personnes qui vont acheter parce qu'ils ont touché l'objet. Et ça, c'est ça qui est grave et dangereux pour notre société. Quoi.
Merci. Je ne peux pas dire mieux. En effet, bravo et merci. Amazon. Du coup, alors, clairement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je vais juste pas trop en rajouter. On en reparle un petit peu après, mais c'était les conférences des Googlisons et tout ça. Mais oui et merci. Amazon. Donc Amazon, un truc que l'on connaît bien. Hein, Amazon, work hard, have fun, make history. Voilà comment on traite les gens chez Amazon. Enfin, vous savez ce qui se passe dans les hangars Amazon. Ok, ça ne nous empêche pas de trouver hyper pratique de se faire livrer le lendemain la Nintendo Switch, mais vous savez ce qui se passe dans puis la Nintendo Switch, ça peut être pris comme mal. Je sais pas, non, du PQ, on peut se faire livrer du PQ aussi, c'est important. Enfin voilà. Et donc là, il y a quand même une vision de comment est-ce qu'on traite l'humain. Enfin voilà, dans les entrepôts Amazon, je vais pas vous la refaire. Il y a des gens qui portent des couches parce qu'ils ont pas le temps d'aller aux toilettes. Des employés qui font. Oui, bien sûr, aux États-Unis, en Inde et tout ça. Évidemment, pas en France, pas trop, pas encore. Mais oui, bien sûr. Évidemment. Mais comment crois-tu que les colis vont aussi vite et que ce soit aussi peu cher? Je sais pas si tu as déjà fait, de l'artisanat et tout ça. Genre là, les oreilles de chat, moi, à un moment donné, je vais peut-être me mettre sur Etsy et essayer de vendre mes trois conneries au crochet parce que ça m'amuse et qu'il faut débarrasser mes étagères. Voilà. Mais je sais déjà, parce que j'ai déjà fait pour d'autres délires, combien c'est chiant de prendre des enveloppes, des étiquettes, de marquer les noms et de mettre des timbres, quoi. Voilà. Et comment est-ce qu'ils arrivent à ce que ce soit aussi peu cher? Bah oui, c'est en traitant les humains comme ça. Et en faisant tout un système qui fait que les humains sont traités comme ça. Alors Amazon, faut pas déconner, hein. On connaît cette partie-là. On connaît pas trop le fait que Amazon héberge, alors je peux pas dire, je suis pas spécialiste, mais la moitié, les trois quarts du cloud aujourd'hui. Le fameux nuage, les Amazon Web Services, hein, c'est eux qui, en général, quand une entreprise demande, dites, créez-moi un cloud pour mon entreprise et tout ça, ou une institution, le sous-traitant va prendre des serveurs chez Amazon. Voilà. Donc les données sont là. Typiquement aussi, Dropbox, jusqu'à 2015, et après tout le long de 2015, ils ont migré, mais jusqu'à 2015, toutes les données que vous mettiez dans votre Dropbox, elles étaient sur les serveurs Amazon. Voilà. Donc voilà comment on traite les gens. Comment vous dire que nous, en face, notre réaction, c'est un peu ça. Voilà. C'est pas tant pour forcément ces idées, quoique si je vous dis que chez Framasoft, on est plutôt du côté des personnes qui produisent les richesses que des personnes qui capitalisent autour. Je pense que voilà. Mais ce regard est quand même assez culte. Et surtout, le gros avantage chez Framasoft, c'est qu'en se prenant pas trop au sérieux, on a réussi à avoir aussi du recul sur comment on fonctionne. Les membres de Framasoft, c'est une asso par cooptation. Donc on se caste les uns les autres et on se caste principalement sur le sens de l'humour. Hein, je vous le dis très honnêtement. Les membres de Framasoft sont principalement des personnes qui ont déjà eu du travail collaboratif dans de l'association, dans des forums, dans des guides, dans des machins, je m'en fous. Du travail collaboratif et qui sont tombés dans les écueils. Vous avez tous et toutes vécu peut-être cette association où on passe plus de temps à faire des réunions qu'à faire des trucs, alors qu'on voulait faire des trucs dans l'association. Ou ce forum, ou ce guide, ça marche aussi, hein, où on passe plus de temps à discuter une issue qu'à coder. Voilà. Et ça, c'est des histoires d'organisation collective. Typiquement, ce site qui existe, hein, yakafaucon.detected.fr, vous pouvez donc mettre un lien. Alors en général, vous cachez le lien. Hein. Oui, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit. Et là, ce que tu m'as dit, vous mettez le lien vers ça. Hein, voilà. Et j'ai bien entendu ce que tu m'as dit. Voici la solution. Ouais, voici la solution. Pareil, là, un petit lien. Parfait. Voilà. Et ça, ça a été fait par un salarié de Framasoft durant son temps de travail. Hein, il a pris un quart d'heure pour... pas plus d'un quart d'heure, hein, ça demande pas plus, mais pour qui connaît, moi ça me demanderait une heure, mais voilà, il a pris un quart d'heure pour le faire, et c'est une de nos règles, c'est-à-dire si quelqu'un propose quelque chose, c'est un yaka faucon, si tu ne dis pas je propose ça et on va mettre en place tel processus décisionnel ou je vais participer de telle manière à l'action, c'est un yaka faucon, et un yaka faucon t'as le droit de le faire, mais ça veut dire que tout le monde a le droit de l'ignorer. Voilà. On a une autre règle, c'est qui fait qui décide. Tout le monde a le droit de donner son avis sur une tâche, un projet en cours, etc., etc. Néanmoins, à un moment donné, si tu veux changer le truc, tu vas mouiller la chemise. C'est qui fait qui décide. Ah ouais, alors là, pour faire ça, tu vois, j'utiliserais plutôt le logiciel Scribus que le logiciel Gimp, Krita, ouais, je sais pas, on va dire ça. Parce que franchement, ça me semble mieux adapté, tout ça, derrière. Puis alors, non, ouais, surtout pas Inkscape, parce que là, Inkscape n'est vraiment pas adapté à ça. Ok, mais tu sais quoi, moi, si je suis à l'aise sur Inkscape, c'est moi qui fais. Si tu veux le faire, vas-y, fais-le sous Scribus. Aucun souci. Et mine de rien, ces façons organisationnelles qui sont en plus hyper, enfin voilà, on s'engueule pas et tout ça, on le prend souvent avec humour. Eh ben, ça marche, ça permet de pas perdre du temps. Parlons un peu de nos petits chéris Microsoft. J'aime bien l'instant pub, hein. Microsoft, do you need a backdoor? Voilà, Microsoft tentaculaire. Alors Microsoft, hein, on les remerciera jamais assez. Ils font le boulot des libristes à la place des libristes. À chaque fois qu'ils sortent un nouveau Windows, tout le monde vient nous demander. Putain, attends, finalement, je vais passer sous Linux, c'est trop la merde. Quand ils font WannaCry, ils démontrent à notre place que c'est pas parce que tu es chez un géant du web, grosse entreprise et tout ça, que tu auras de la sécurité. Hein, je vous rappelle que par rapport à WannaCry, il y a un détail qui est hyper important. C'est que les ordinateurs sous Windows XP, ils ne les maintenaient plus en service parce qu'ils avaient dit on arrête hein, le maintien de Windows XP. Sauf pour les gens qui payent, évidemment. Mais sinon, on arrête le maintien. Et donc, ils avaient un correctif qu'ils n'ont pas filé, du moins pas dans les temps, aux personnes de Windows XP. Et derrière, disant, mais attendez, si quelqu'un vous a laissé sur Windows XP alors qu'on avait dit qu'on ne le maintenait plus, voilà. Là, très, très clairement, ils ont mis la sécurité des gens en jeu. Pour des raisons de capitalisme, c'est-à-dire soit tu payais une extension de maintien de Windows XP parce que tu voulais y rester dessus, soit tu payais une licence vers un Windows supérieur. Mais voilà. Donc bref, la sécurité, c'est pas chez eux qu'on la trouve. Ça c'est juste merci, ils nous font nos arguments entre eux. Microsoft, ils envahissent notamment l'éducation nationale. Alors nous on l'aime bien cette photo, la ministre de l'Éducation nationale, le PDG de Microsoft France, voilà, qui signe à Microsoft, qui va filer 13 millions pour nos collèges, pour avoir les données de nos gamins. Très clairement, voilà, c'était ça le truc, hein, ils vont filer 13 millions de logiciels, de tablettes et de machins pour avoir les données de nos gamins. On aime bien cette photo parce qu'elle est arrivée juste après une grande consultation populaire et tout ça, et où il y a eu une des donc où les gens pouvaient faire leurs propositions pour la future loi numérique, grande consultation citoyenne et populaire, et où une des propositions les plus soutenues et les plus votées, c'était de dire logiciel libre à l'école. Voilà. 2 mois après les résultats de cette consultation citoyenne et populaire et tout ça, voilà l'écoute de la démocratie. C'était assez magnifique. Voilà. Donc typiquement, ben nous un peu la réaction, c'est voilà, on a fait ça fait 13 ans qu'on travaille avec l'éducation nationale, que souvent on est demandé dans des colloques, des observatoires, des machins, des trucs, des bidules. Et puis en fait, ça fait 13 ans qu'on se fout de notre gueule, que on s'entend dire non, c'est très important ce que vous faites le logiciel libre, parce que ça permet de mettre en tension les offres du propriétaire. Enfin, excuse-moi, on a des bénévoles, on a des gens qui, en plus de leur vie, parce qu'ils croient à quelque chose, ils ont des valeurs, ils mouillent la chemise, et toi tu dis merci de nous faire une ristourne. C'est ça que tu es en train de nous dire là, tu vois, on va pas servir à ça en fait. Donc voilà, la réaction c'est de dire, ben on va prendre du recul, là ça marche pas, là c'est une voie sans issue. Donc on va garder notre temps, notre énergie, parce qu'ils sont précieux, et du coup... Eh ben, quand on a du temps et de l'énergie, ça permet aussi parfois d'improviser un truc. Ça, on l'a fait sur une blague. Pour info, Microsoft a racheté Minecraft, enfin Mojang, qui a les droits de Minecraft, à un jeu de création. C'est une espèce de méga Lego numérique. Génial. Et ils l'ont racheté, et leur principal axe avec Minecraft, évidemment, c'est de fermer un truc qui était hyper ouvert, où chacun pouvait créer ses Lego numériques et ses modes, sa manière de faire et tout ça. Ils l'ont fermé de plus en plus, et ils ont fait une version spéciale éducation, parce qu'on peut faire des super applications éducatives avec ces jeux vidéo-là, c'est vraiment génial. Et évidemment, et voilà, ils ont fait un truc une version éducation, encore une fois, pour habituer les enfants le plus jeune possible à Microsoft, avoir leurs données, faire que leurs parents utilisent des produits Microsoft, nani, 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 nana. Donc, eh ben, nous, sur une blague, on râle sur les réseaux sociaux parce que, ah, tiens, Minecraft éducation édition de Microsoft, est en bêta. Et là, il y a quelqu'un qui nous dit, il y a Mindtest qui existe, c'est la version logiciel libre et tout. À quand on fera Mindtest? Et là, on dit à la personne, écoute, nous, on a le nez dans le guidon, mais si tu viens le faire chez nous, viens. Voilà, on te file un bout de serveur, qu'est-ce qu'il te faut, quoi, viens. Et ben chiche. Ah merde, chiche, vraiment. Voilà, ça se passe fin juin. En septembre, on sort un truc comme ça, qui est utilisé par des profs énormément. On leur a ouvert un bout de forum. Il y a un wiki, le wiki français de Mindtest, du coup, est hyper nourri par énormément de profs. Il y a des expériences géniales. Il y a un prof de philo qui utilise ça, qui genre a proposé à ses élèves, vous savez quoi, on va faire un monde où il n'y a pas d'armes. Voilà. Et on va voir comment nous voulons évoluer, nous, en tant que société, dans ce monde où il n'y a pas d'armes. Et là, les élèves leur font, monsieur, ok, mais attendez, on vous propose un truc. Plutôt que de faire un monde où, numériquement, c'est pas possible de faire une arme, on laisse les armes dans le jeu, mais promis, on les met dans un coffre et on n'y touche pas. Le cours de philo, il est fait, hein. Ça y est, vous avez lancé votre débat. Voilà, à quoi sert de faire des armes si on veut un monde sans armes. Voilà, donc tout ça est un ensemble, hein. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. We love your data. J'aime bien, ça fait vraiment comme si on leur faisait de la pub. C'est l'instant pub de la conférence. Voilà, en face de nous, cet ensemble, nous avons les entreprises les plus riches du monde. Est-ce que vous vous rendez compte que ça, c'est donc les capitalisations boursières, la ligne d'en bas est 2016, c'est Apple, Alphabet, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Est-ce que vous vous rendez compte que les entreprises les plus riches du monde aujourd'hui, les plus puissantes financièrement, c'est pas du pétrole, c'est pas du Big Pharma, c'est pas Monsanto, c'est pas General Motors, c'est les GAFAM. C'est des gens qui se nourrissent principalement de nos vies numériques et qui les revendent à principalement des publicitaires. Voilà. Donc ça, c'est eux. Et nous, en face, nous, qu'est-ce qu'on est? On est ça. On n'aura jamais leur puissance de feu. On n'aura jamais les études en face. Vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure qui est hyper important. Les études en face pour, par exemple, aussi faire en sorte que vous passiez un maximum de votre temps de vie sur les applications Facebook ou Google ou compagnie, ou sur Apple. Voilà, ils font des études pour ça. Si vous vous êtes déjà perdu dans le scroll infini de Facebook, si vous êtes déjà perdu dans une spirale infinie de vidéos YouTube, c'est normal. C'est parce qu'il y a des études de neurosciences et de neuropsychologie qui sont faites, et il y a une ergonomie qui est faite pour ça. Parce que eux, leur but, c'est qu'on passe le plus de temps sur leur site. Hein. C'est normal, hein. C'est du capitalisme de base. Nous, on n'aura jamais ces moyens-là. Nous, on n'a pas leur puissance de feu, on n'a pas leurs ergonomes, on n'a pas leurs designers, on n'a pas leurs développeurs, on n'a pas ça. Qu'est-ce qu'on a? On a des chatons. Eh ben, ok, tu sais quoi? On va assumer, on va être les chatons. Les chatons, c'est ce qu'on a formé sur la fin de Dégouglison et qui continue, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparent, ouvert, neutre et solidaire. Les chatons. Et le fait est de dire que si nous, on peut pas être un géant et on veut pas être un géant, eh ben, on va être plein de petites fourmis, plein réseau. Si nous, on veut pas être Monsanto, si on veut pas être Carrefour et Leclerc, on va créer un réseau d'AMAP, du numérique. C'est un peu ça le délire. De dire faire des producteurs locaux de numérique, artisanaux aussi, qui bidouillent, qui font dans leur coin, qui n'auront pas le professionnalisme, etc. Donc ça veut dire qu'il y a des moments, bah, ton service, il sera planté. Et pendant un quart d'heure ou pendant une journée, t'auras rien. Ok. C'est pas grave, parce que tu sais que c'est artisanal, tu sais que tu peux appeler le mec en face derrière, que t'as un humain. Je sais pas si vous avez déjà essayé de joindre le service client de Google, merci, de Google, de Facebook, d'Apple, Vous avez déjà ça? Non, sérieusement, vous avez déjà essayé de joindre à ça? Je veux dire, la FAQ, vous tombez dessus, hein. Nous, quand vous nous envoyez une demande d'aide chez Framasoft, on en traite à peu près entre 200 et 500 par mois, là, en ce moment. C'est énormissime, hein. Quand vous nous envoyez, je veux dire, sans les spams, évidemment, sinon c'est pas drôle. Quand vous nous envoyez une demande d'aide ou de contact, vous avez, évidemment, on a fait ça avec un système de tickets pour trier les trucs et pour pas en perdre, parce que sinon on perdait tout le monde et c'était nul. Donc vous avez une réponse automatique. La réponse automatique vous dit, oui, on déteste nous aussi les réponses automatiques, c'est juste pour vous dire qu'on l'a bien reçu, mais les vrais humains arrivent, vous inquiétez pas. Et puis après, vous allez avoir un vrai humain en face ou une vraie humaine qui va vous répondre. Parce qu'on a des chatons. Parce que notre force en tant que militante et militant, c'est qu'on est dans l'humain. On est dans la relation personnelle. Donc, ben, prenons-la, cette force. Et voilà. Et voilà. Du coup, en utilisant ces forces-là, eh ben là, on a un gif qui va s'animer et qui montre, attention, là, c'est 2 ans de dégooglisant. Il manque encore la 3e année où il y a eu déjà beaucoup, beaucoup d'autres avancées. Mais vous allez voir, on va remplir comme ça au fur et à mesure, jusque en bas, là, hein, où il en manque. Gmail est dans la Corse. C'est quasiment celui qui est impossible, pardon, qui est impossible à atteindre. Mais ça sera peut-être pour l'après dégooglisant. Je vais pas vous en parler aujourd'hui. Je résume un peu ce que je viens de vous dire là en faisant les GAFAM. Voilà, je vous ai dit 6 arguments de ne pas se prendre au sérieux. Savoir sa place. Eh ben, savoir qu'on est tout petit. Ça aide à s'allier. Ça aide, franchement, la modestie, ça aide à être beaucoup plus juste dans la manière de faire et dans la manière de trouver de l'aide et de l'échange. S'autodérider, avoir un peu d'autodérision, merde, voilà quoi, c'est à un moment donné, on va tous, on pète tous et on va tous mourir, voilà. Ben, ça facilite beaucoup pour aborder des personnes qui peuvent être intéressées par nos idées, mais que si on est tendu, crispé, etc., ça va être beaucoup plus difficile d'entendre ces idées-là. Savoir se détendre aussi, ben là encore une fois, plus d'écoute et d'échange entre nous. Se connaître, ça permet de mieux collaborer, hein, savoir que nous on connaît c'est la loi de Moore, je crois, la loi de l'abri à vélo. Toute réunion s'éternisant finira par un gros débat sur un détail de quelle couleur on repeint l'abri à vélo. Voilà, c'est une loi sociologique, hein, qui est connue. Et quand on a fait des réunions en associatif, on connaît ça. Voire même des réunions en milieu professionnel, ça marche aussi. Voilà. Se laisser le temps, à un moment donné, savoir abandonner des combats qui pourtant nous tiennent à cœur, mais que c'est mort. L'éducation nationale, c'est pas avec le ministère qu'on fera le truc. C'est avec des profs de la base, mais pas avec le sommet de la pyramide. Ça marchera pas. C'est mort. Il y a pas de volonté politique. Ben, ça permet de se donner le temps. Ça permet d'improviser. Ça permet de laisser la place à la sérendipité, à ce qu'il pourrait arriver que nous n'avons pas imaginé auparavant. Et enfin, le fait de s'assumer soi-même. Nous sommes comme nous sommes des petits chatons. Et c'est pas si mal d'être des petits chatons. On n'a pas envie d'être des gros géants du web et des gros ogres. On a envie de rester des petits chatons. On n'a pas envie de trop grossir, hein, une décision de la dernière Assemblée Générale de Framasoft, d'avoir une croissance modérée pour ne pas trop grossir. Et donc trouver, hein, comment transférer et transmettre les avis et les attentes qui sont sur nous, ben ça permet, voilà, justement de trouver, de rassembler d'autres personnes qui s'assument comme nous, telles qu'elles sont. Donc voilà, changer le monde en bidouillant un monde qui nous ressemble. Hein, on est comme on est, on s'assume, et avec pas mal de bienveillance, d'écoute et de recul, en se prenant vachement moins au sérieux, finalement on y arrive. Je ne sais pas si vous connaissez Steven Universe, mais c'est un truc à mettre devant les yeux de tous les grands et petits enfants, tellement les morales de ce dessin animé sont des morales, ben moi qui me parle et ce dont je vous ai parlé, vous voyez à peu près ce que ça veut dire, hein, des morales de compassion, d'écoute et de tout ça. Voilà. Ou si vous voulez, on peut le dire autrement, hein, we are the world, we are the kitten. Je suis sûr qu'on peut refaire la chanson de Jackson comme ça. Mais ouais, assumer ce que nous sommes, encore une fois, bah, dans la bienveillance, dans la simplicité, sans se prendre au sérieux. Cette conférence, j'en ai eu l'idée parce que en octobre dernier, quand on a lancé le début de la 3e année de la campagne des googlisons, il y a eu un magnifique article hyper intéressant, hein, vraiment, je ne sais plus sur quel blog, je suis désolé, mais où va Framasoft ? et quelqu'un qui essayait d'analyser comme ça, de remettre en question, d'être poil à gratter, vraiment de donner un retour à la fois tendre, mais aussi sans concession, et d'interroger au final les choix politiques et les choix que nous faisions, et peut-être cette personne n'aurait pas eu les mêmes choix. S'en est suivi un débat formidable dans les commentaires. Et Pierre-Yves, mon collègue, qui a fait une super méga réponse, enfin, la discussion était géniale et intéressante, et merci de l'ouvrir, donc on a envie de répondre, quoi, tu vois. Donc il a fait une méga longue réponse, a fait un deuxième commentaire juste en dessous en disant ce commentaire tu peux l'effacer si tu le vois passer à l'édite, hein, c'est plus pour toi que pour tout le monde. Mais tu sais, franchement, à ta question, mais où va Framasoft, j'ai failli répondre dans ton cul. Et c'était pas une agression, mais c'était pour la blague de donc. Dans ton cul, faut arrêter de se prendre au sérieux. On n'est que Framasoft. On n'est que 30 pécores, 7 salariés, une bande de potes, une asso bande de potes qui aimons les chatons et Internet et qui avons peut-être une vision chaton de la vie et qui essayons de l'appliquer comme nous pouvons, de faire le monde tel qu'on aurait envie qu'il soit. Voilà. Et je trouve que voilà, ça explique bien ça. Et finalement, pour moi, si on peut se poser la question de et si ne pas être sérieux, ne pas se prendre trop au sérieux, ne pas vouloir faire sérieux, et si c'était pas vraiment une proposition politique. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. On a peut-être un peu de temps pour des questions, si vous avez des questions, mais genre 2-3, pas plus, non ?
Est-ce que Google est venu vous voir pour essayer de vous déframastofter Internet? Est-ce qu'il y a eu une tentative de rapprochement, de séduction, de copinage, Google, Microsoft, Facebook ou les autres?
Ouais, bien sûr. Non, ils ne nous connaissent pas, ils n'en ont rien à foutre de nous. Il faut être très clair, on ne leur fait pas peur. Il faut arrêter de déconner. On ne leur fait pas peur et je pense qu'on est totalement passé sous leur radar. Par contre, Framasoft a utilisé de l'argent de Google. Des membres de Framasoft ont utilisé de l'argent de Google. Très exactement, il y a des membres de Framasoft qui ont participé au Google Summer of Code, qui se sont fait payer très grassement par Google pour genre 3 mois de boulot, qui ont fait une semaine de boulot et qui le reste ont passé en militantisme à Framasoft. Voilà. Donc bon, de très 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 indirectement, on a profité de ces conneries-là. Mais très 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 clairement, on ne leur fait pas peur. Et franchement, tant mieux. Plus longtemps on passera sous le radar, plus longtemps on pourra proposer un autre monde. Le jour où on commence à leur faire peur, il faudra être armé pour. Tu vois. Typiquement, vous avez vu hein, toute l'imagerie de dégooglisons Internet, c'est lié à Astérix. Hein, c'est de la parodie des dessins. Tous les dessins sont refaits, tout ça. On connaît le droit d'auteur, on n'est pas con. C'est de la parodie des dessins Astérix. Mais le jour où on se prend un procès au cul, ça nous fera une belle pub. Clairement, on va gueuler bien fort. Hein. On demandera aux copains de dire attention, il y a des méchants. Mais voilà quoi, on est passé sous le radar et tant mieux. Restons sous le radar, restons petits.
Oui, souvent la démarche de Framasoft en termes de mise à disposition de services, c'est plutôt de faire comprendre aux gens que de mettre en place des démonstrateurs, des services qui sont là pour montrer aux gens que ça marche, mais pas nécessairement pour justement devenir un petit GAFAM.
Tout à fait.
Et ça, c'est ce problème-là. Comment vous pouvez y faire face? Bon, pour chaton, ça semble relativement naturel que les gens montent des serveurs, etc. Mais comment les gens ils pourraient se dire tiens, je vais installer Etherpad sur ma machine et puis pour mon asso ou etc. plutôt que de continuer à puiser dans les ressources des serveurs de Framasoft qui de toute façon on l'a vu avec Nuit Debout, au bout d'un moment ils sont sur les choux et votre vocation n'est pas justement d'avoir des machines qui puissent encaisser 300 milliards de visites à la seconde.
Exactement. Alors très honnêtement, comment on fait? On est une asso d'éducation populaire et notre slogan c'est la route est longue mais la voie est libre. Donc on a une réponse, mais on sait très bien que cette réponse, elle est sur le long cours, elle se joue sur le long cours, parce que l'éducation, ça prend du temps. Et c'est pas grave, c'est prévu. Voilà, d'où le fait que pour l'instant, on est en mode croissance modérée plus que décroissance, par exemple, parce que il nous faut encore malheureusement grandir, même si on freine des cas de fer. Donc comment on fait? On essaie de mettre en place tout ce qu'on peut. Il y a des services qui sont limités. Framadrive, il y a 5000 comptes qui sont ouverts, pas plus. Tu veux une alternative à Dropbox, Google Drive? On t'indique, va chez IndieHoster, va chez la Merzaklis, va chez Tata Neutral, ils en font du... Va, voilà, installe-toi un Why You Know Host, etc. On l'indique. Ensuite, les réponses sur le long long terme, ben là, c'est justement le post-dégooglisons Internet. Donc, on va en parler cet octobre lors de la prochaine campagne. On a commencé avec les chatons, déjà, et très clairement, Framasoft, aujourd'hui, et on en parlera en octobre, investit du temps et de l'argent dans les chatons, dans le collectif. Et clairement, ça n'est pas le collectif de Framasoft. Framasoft n'est qu'un membre. Mais on sait très bien qu'on est le membre qui a le plus de moyens. C'est normal qu'on en mette le plus à disposition afin que le collectif puisse arriver à maturité. Aujourd'hui, les chatons, c'est naissant, c'est lancé depuis octobre dernier. Quand le collectif aura un an, qu'il y aura 40 ou 50 membres, qu'il y aura une vraie dynamique d'installer, qu'il y aura des façons de faire, d'échanger, de prendre des décisions et tout ça qui seront mises en place, là, ça pourra commencer à parler au grand public. Mais pour l'instant, c'est pas possible. On peut pas le présenter au grand public. Dans les étapes futures aussi, on investit dès aujourd'hui. Notre admin 6 passe une journée de travail par semaine à développer pour Why No Host afin que les logiciels libres que nous utilisons pour nos services Framasoft puissent être installés sur un serveur Why No Host. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, Why No Host permet en fait de se faire son serveur maison même quand on est moldu du code comme moi. J'ai une brique internet avec un Why No Host dessus. Donc voilà, c'est pas encore OK pour ma maman, mais ça joue pour les gens comme moi qui sont entre deux. Voilà. Donc on investit dans Why No Host. On fait de l'éducation. Typiquement, on est avec le développeur de Wallabag, qui est une alternative à Pocket, qui permet de sauvegarder des articles web pour plus tard. Framabag, que nous proposons sur son logiciel, n'a pas été mis à jour dans la mise à jour majeure, qui n'était pas, il n'y avait pas de problème de sécurité évidemment, n'a pas été mise à jour pendant longtemps parce qu'on avait trop de comptes, 11 000 comptes, c'est beaucoup trop. Et on a d'abord incité les personnes à dire « Attendez, vous voulez le logiciel à jour ? Le développeur du service, il vous offre, enfin, il vous fait payer le truc 12 euros par an. Le service, genre, à 1 euro par mois, quoi, tu vois ? C'est pas déconnant, c'est comme si tu faisais un don, faut pas déconner, hein, au développeur, qui a passé 3 ans de sa vie bénévole à créer ce service. Donc, eh ben, déménage chez lui, on te dit comment. » Voilà. C'est tout un tas de choses comme ça qu'on essaie de mettre en place au fur et à mesure, et très clairement, on ignorait que dégooglisons Internet aurait aussi vite autant de succès par rapport à nous, tout petits que nous sommes. Et par exemple, les chatons, nous, on imaginait s'y mettre à partir d'octobre prochain. On l'a fait 1 à 2 ans plus tôt. C'est pas pour rien. C'est vraiment... parfois aussi, on improvise au fur et à mesure. C'est vite que trouvons des solutions pour décentraliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pardon, j'ai fait long sur celle-là. On va dire que c'est la dernière ? C'est bon pour... Ouais, c'est... Ouais,
bonjour, bonsoir. Ma question, c'était, est-ce qu'il y a des alternatives dans la francophonie ou bien ailleurs sur le web qui pourraient être comparées à une forme de résistance aux GAFAM ?
Attends,
des alternatives comme Framasoft, mais okay. Ailleurs...
Dans la francophonie aussi ?
Dans la francophonie ou dans le monde.
Dans la francophonie, il y en avait déjà qui le faisaient un peu de leur côté. Et on s'est réunis dans le collectif Chaton, principalement. Mais voilà, Infini.fr existait bien avant nous. Hein, ils existent depuis plus de 20 ans. Le Rien, hein, qui est un réseau d'hébergeurs d'Internet, machin chose. Il y avait Le Rien, Marsnet aussi. Enfin, il y en avait plein qui existaient déjà. C'est pas pour rien qu'on s'est mis ensemble en collectif. Il y a des alternatives un peu plus entreprises. Je peux penser à Philips Cophonie, à MyCozy Cloud, à des choses comme ça, Sandstorm.io aussi. Il y a des alternatives qui existent en Hollande, en Inde, en Allemagne. Pareil, pour finir de répondre à cette question de décentralisation et tout ça, un de nos buts aussi dans l'après-dégooglisons, ça va très probablement être de passer à l'internationalisation. C'est-à-dire de transmettre, alors non pas d'ouvrir nos services aux anglophones, parce que là on est mort, qu'on soit bien d'accord, mais plutôt de dire, regardez, on a eu un truc qui a marché, voici comment nous avons fait, et de le dire en anglais. Essaimer, exactement, essaimer, donc de dire en anglais, voici comment on a fait, adaptez-le à votre pays, votre culture, votre internet, votre bout d'internet, et copier, et mettons-nous en réseau, et échangeons, partageons. Voilà, ça va être tout, parce que là, il va y avoir une autre conf, mais merci beaucoup, et puis si vous voulez continuer à parler, ben, on peut boire un coup. Merci.